En t'asseyant, dis « Dieu est bon » à quelqu'un à côté de toi. Par la grâce de Dieu, bientôt je serai qualifié pour prêcher sur la parabole du fils prodigue. J'ai presque compris l'histoire. Ça fait un an et demi à peu près que je dis au pasteur Romaric, je médite sur cette histoire. Et peut-être un jour on va en parler. Vous savez, on essaye toujours d'amener un message et on se dit toujours le message que je dois apporter doit être un message qui vient du cœur de Dieu et qui équipe le peuple de Dieu. Moi, je crois personnellement que je suis dans un processus depuis un an et demi d'un retour à la simplicité totale dans ma vie. Je crois que l'évangile est le message le plus simple du monde, mais le plus puissant du monde. Je crois que l'Église doit être le lieu où la vie de Dieu est libérée comme jamais. Je crois qu'un chrétien est quelqu'un qui est solide. Dis à la personne à côté de toi, tu es solide. Il y a un agacement, excusez-moi les amis, mais il y a un agacement en moi. J'en ai marre de voir des chrétiens fragiles. Je crois qu'on est appelé à être solide, pas parce que tu es solide, mais parce que le Dieu qui est solide marche avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Moi, dans mes notes, il y avait écrit, ils vont dire Amen, là.
Amen!
Yes! Vous êtes là? Il s'est réveillé, mon fils, Amen. Quand tu vois qu'il s'endort, tu as le droit de dire un grand Amen, comme ça. Cet après-midi, on va parler de l'amour de Dieu. En fait, je crois que l'amour de Dieu, c'est l'écosystème qui te permet de tout comprendre dans la parole de Dieu. Si tu prends des versets de la Bible sans comprendre l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, tu ne peux pas les comprendre. Ce n'est pas compliqué, tu ne peux pas les comprendre. Si tu prends une directive que je donne à mon enfant, tu prends la directive, mais tu oublies qu'il est mon fils, tu oublies qu'il vit dans ma maison, tu oublies que je l'aime, tu oublies que je pourvois ses besoins, tu oublies qu'il est mon fils et que je pourrais donner ma vie pour lui, que tu prends que la directive, tu vas te dire ce papa est dur. C'est vrai. Mais si tu comprends l'environnement, tu comprends peut-être la directive. Mais surtout, tu sais que la directive n'enlève pas l'amour, la directive n'enlève pas la protection, la directive n'enlève pas la grâce. Le problème que nous avons souvent, c'est qu'on prend des versets parce qu'on les découvre, ils nous touchent. Et comme on est touché, on en fait une directive, une doctrine, et on oublie toujours la simplicité de l'évangile. L'évangile est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut refaire de nos églises un lieu de bonne nouvelle? Non? Pas un lieu de galère. C'est « je vais à l'église, la loose ». J'étais avec un jeune là pendant quelques jours, on travaillait ensemble et il me dit « tu es pasteur, mais tu vas à l'église toutes les semaines ». Pour lui, c'est « on te paye pour ça ou quoi ?» Non, mais il y a une joie en fait d'appartenir à Dieu. Parce que quand tu restes constamment dans son amour, vous savez, je vais vous lire un verset. Un verset moi qui m'a challengé le jour où je l'ai lu. Et il me challenge encore aujourd'hui, c'est dans Jean, chapitre 15 et verset 9. Je le relisais pendant la prière. Jésus a dit ceci, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Et ensuite il dit, « Demeurez dans mon amour. » Parce qu'il y a un challenge de demeurer dans son amour. Tu peux te mettre à demeurer dans tes pensées, à demeurer dans tes efforts, à demeurer dans une doctrine qui appartient à ton église. Tu es fan de ton église plus que de Jésus. Et on peut perdre de vue cette réalité. Demeurer dans son amour. C'est tellement important que Christ a dit « Je m'en vais au ciel et je vous envoie le Saint-Esprit ». Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'apprendre et de t'aider à demeurer dans son amour. Père, garde-nous de sortir de ton amour. Garde-moi d'avoir une vie spirituelle où je sors de ton amour. Je ne prie pas parce que je dois prier, je prie parce que je suis dans son amour. Je ne lis pas la parole de Dieu parce que sinon le pasteur Romaric m'envoie un texto. Je lis la parole de Dieu parce que je demeure dans son amour. J'ai envie de lire la parole de Dieu. C'est parce que je demeure dans son amour que quand je vois les gens qui sont sans Christ, j'ai envie de leur dire ce que j'ai découvert moi. Frères et sœurs, la raison première pour laquelle l'Église ne prêche plus le message, quand je dis prêcher, je ne dis pas juste te mettre au coin de la rue et dire « Jésus t'aime, tu vas en enfer, ça n'a rien à voir », mais je parle d'aimer les gens, de s'intéresser à eux, de leur communiquer ce qu'on a reçu. La raison première, c'est parce qu'on est sorti de l'amour. Parce que quand tu te sais aimer, tu as envie de donner. Tu n'as pas peur de perdre. Tu as envie de donner. Alors, je prie que le Seigneur nous aide. Et on va lire un texte cet après-midi. Le texte qui va propulser Pierre de l'échec à son futur. L'apôtre Pierre est passé par une saison d'échec, mais alors total dans sa vie. Et pourtant, il est devenu un des apôtres fondateurs de l'Église. Un des apôtres qui a prêché le premier message. La bonne nouvelle, c'est que tu peux passer par des saisons d'échec total, mais Dieu ne t'abandonne pas, Dieu travaille au travers de toi et Dieu t'amène à devenir ce pour quoi il t'a destiné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé par une saison d'échec? Bon, les autres, vous mentez là. Chaque année, voici la révélation. Chaque année, il y a un été, j'aime l'été, il arrive. Il y a le printemps, il y a l'automne et il y a l'hiver. Tous les ans, il y a un hiver. Il y a 2 semaines, on a eu 1 semaine de beau temps. Vous vous rappelez de cette semaine-là? Martine, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu sais qu'on t'aime, hein? On a prié pour toi, purée. Et on prie pour toi. Et il y a 1 semaine de beau temps et j'ai un cousin à moi qui m'a dit « Ça y est, c'est l'été, c'est fini. J'ai rangé mes pulls. » Il aspire à l'été. On aspire à l'été, mais il y a l'hiver tous les ans et tous les ans, il y a ces saisons. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est des cycles. La vie, c'est des combats, c'est des victoires et c'est des défaites. Et il n'y a pas de souci avec ça. Dieu, lorsque tu as une défaite, ne te regarde pas en te disant « Tu es un bon à rien. » Dieu veut que cette défaite, peut-être demain, tu vas encore avoir une défaite, mais elle sera un peu moins profonde et un jour, tu auras ta victoire. C'est ça le but de Dieu, en fait. Et donc, Pierre est dans ce moment de défaite, et on va lire ensemble, il a renié Jésus 3 fois publiquement. Vous savez, nous, des fois, on est là, on a peur de donner témoignage et on se dit, « Oh Seigneur, je t'ai renié. » Parce que tu n'as pas rendu témoignage. Non, lui, Pierre, il a bien fait les choses. Il a fait le vrai reniement, bien organisé. Dans la cour, devant tout le monde, je ne le connais pas. Pas 1 fois, 3 fois, alors qu'il a été averti qu'il allait le faire, le gars. C'est costaud quand même, hein? Mais il le fait quand même. Et en plus, Jésus le regarde ce jour-là, la Bible dit qu'il pleure, il s'en va et il retourne à son ancienne vie. Et comme il ne sait faire que ça, Pierre est un pêcheur qui va à la pêche et il va à la pêche sans jamais prendre un poisson. Ça, c'est un sport, ça. Ça, c'est un chef d'entreprise qui est plein d'ambition. Le chef d'entreprise qui est dans l'échec total. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est en ce moment dans une saison compliquée au niveau de ses finances, de son entreprise. Jésus n'est pas simplement là pour te sauver, il est là aussi pour restaurer tes affaires.
Exactement.
Il est là aussi pour ça. Vous savez, nous, on croit que dans l'Église, Dieu est focalisé sur notre esprit. Si Dieu était focalisé que sur ton esprit, ben tu te convertis, tu meurs instantanément alors. Comme ça, tu es avec lui et le corps, on s'en fiche. Tout le reste, on s'en fiche. Je veux dire aux jeunes aussi, les jeunes, étudiez. Étudiez. Tu reçois? La vie, c'est pas que la prière. Si tu passes ta vie à prier, que tu n'étudies pas, je vous raconte un témoignage. Après, je commence pour de vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas prêché, alors ça va. Quand je me suis converti, Jésus change radicalement ma vie. Je suis... C'est l'explosion. Et il y avait un jeune avec moi, il était un peu dans la même situation que moi, l'explosion totale. Et moi, je redoublais ma première année de faculté. Études de droit, échec total, je redouble ma première année. Et l'avantage que j'avais, c'est que j'avais beaucoup de temps. Imaginez, j'avais un cours tous les 15 jours. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais chez papa et maman. Ben, je prie. Je priais, je lisais ma Bible. Je me rappelle le premier mois, 7 fois le Nouveau Testament, je priais. Et puis à l'église, je rencontre ce jeune qui est dans le même cas que moi. Et il me dit, tu aimes prier? Je dis, ouais, mais en plus, je ne sais pas trop. Il me dit, viens, on prie ensemble. Et on a décidé pendant 1 an de prier toutes les nuits ensemble. Tout le monde dit, oh, c'est beau et tout. Seulement lui était en BTS, il a échoué. Parce que tu ne peux pas ne pas dormir la nuit et prier et aller à l'école le jour. Dieu est bon parce qu'on était un peu déséquilibrés, un peu fougueux, un peu jeunes. Il a restauré ça après. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la vie n'est pas que spirituelle. La vie, c'est le travail, c'est les relations, c'est prendre soin de soi, soin des autres. C'est ça la vie. Corps, âme et esprit. Dis à personne à côté de toi, Dieu t'aime, corps, âme, esprit. Bon, on revient à Pierre. Pierre est là, c'est l'échec. Et la Bible dit qu'il a pêché toute la nuit à nouveau et il n'a rien pris. Il n'a rien pris. Et il est là, il est travaillé, en plus il a renié le maître. Et la Bible dit qu'il va voir au loin un homme qui fait un feu sur la plage. Et cet homme dit, jette le filet du côté droit du bateau, il jette le filet et boum, les poissons. Et là il se dit, c'est Jésus, c'est Jésus. Et là, la Bible dit qu'il saute, il va, il fonce à la plage. Et puis là, le Seigneur est là, il y a un échange qui va commencer à prendre place. Et la Bible dit ceci dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17, je lis pour vous. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Jésus lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et l'histoire, on va l'arrêter là, nous, mais après ce passage-là, Pierre va reconnecter avec les autres disciples. Ils vont se retrouver dans la chambre haute à attendre ce que Jésus avait promis. Le Saint-Esprit va venir et Pierre va se lever le jour de la Pentecôte et il va prêcher. Et la première vague de personnes devenant chrétiens va arriver ce jour-là. Ce texte-là est fondamental parce que la première des choses qu'il nous apprend, c'est que mes échecs ne stoppent pas les promesses de Dieu. Je veux répéter ça, tes échecs ne stoppent pas les promesses de Dieu. Comme tu n'y crois pas, tu vas le dire à la personne à côté de toi. Dis à la personne à côté de toi, tes échecs ne stoppent pas les promesses de Dieu. Vous savez, Pierre, c'est le genre de gars... C'est le genre de gars qui vous ressemble, en fait. Parce que Pierre, il a dit une chose que vous avez dite au Seigneur. En tout cas, normalement, vous lui avez dit. Moi, je lui ai dit des dizaines de fois. Mais Pierre, dans Matthieu 26, verset 35, il a dit, « Seigneur, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Quelle réunion incroyable, celle-là. Cette réunion, elle s'est finie par un appel. Ils étaient tous devant. Amen, on s'engage, on est avec toi, on est pour toi, on ne te reniera pas. C'est beau, ça. Hein, ça a duré 10 minutes, quoi. Ça, c'est beaucoup d'engagement qu'on prend, sont comme ça. Et vous savez, et je veux faire exprès de dire ça, parce que c'est très important. Je veux abattre un faux raisonnement cet après-midi. Je prie que Dieu m'aide, que le Saint-Esprit m'aide. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et lorsque je lisais ce texte, je pense à Matthieu 10, 33. Jésus dit une chose, il dit, si tu me renies devant les hommes, tu seras renié devant mon Père qui est dans les cieux. Comment vous expliquer ça? Comment ça se fait alors que Jésus n'ait pas abandonné Pierre? Puisque si on prend Matthieu 10, 33 de manière littérale, « Si tu me renies sur terre, je te renie devant mon Père. » Est-ce que vous croyez, question, bon j'allais dire à 100 euros, mais c'est faux parce que je ne les ai pas. Mais question, est-ce que vous croyez que si Pierre était décédé pendant le temps où il a renié Jésus et le temps où Jésus vient le chercher, il serait allé en enfer? Il y en a, ça prend un peu des risques par là. Dis-le fort, il n'y a que toi qui as compris. Ben bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Et nous, des fois, on croit toujours que notre salut est fragile. On croit que c'est fragile. On ne sait jamais. Aujourd'hui, j'ai une bonne journée, je suis sauvé. Mais demain, peut-être que je ne serai pas sauvé. Et puis en plus, si je renie Jésus, il me renie. On dirait que Dieu est sur son trône et il attend le moindre faux pas pour hop, t'enlever sa grâce, t'enlever sa protection, t'enlever sa bonté. Et tu vis cette vie chrétienne. Et pourtant, Matthieu 10, 33 est écrit. Non, on est d'accord. Mais alors pourquoi Jésus ne le fait pas? Parce qu'en fait, il ne dit pas Matthieu 10, 33 vraiment ça. Matthieu 10, 33, il dit, je vais vous le dire littéralement, c'est si tu choisis de répudier Jésus, de prendre un engagement solennel devant tous, de ne plus jamais le suivre, alors là, il te reniera. Mais il ne parle pas de ces saisons où tu es à côté de la plaque. Et Dieu sait qu'il y en a et qu'il y en aura. Vous êtes là ? Il y en aura. Il y a des saisons où on est des héros et il y a des saisons où les héros, ben, ils sont en vacances. Il y a des saisons où on prie des prières. Jésus dit, purée, là c'est fort quand même cette prière. Et des saisons, il dit, tu pries plus. C'est pas, on ne parle pas d'un reniement qui rend mon salut fragile. Et je veux vous le dire, votre salut n'est pas fragile. C'est solide. Jésus, quand il te sauve, et là encore une fois, je prie que le Seigneur m'aide, Saint-Esprit, que tu puisses appliquer cette vérité sur les cœurs, sur nos cœurs. Parce que si tu comprends, le jour où Jésus te sauve, il te sauve de ton passé, il te sauve de ton présent, mais il te sauve aussi de ton demain. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Toi, tu ne connais pas ton histoire, mais lui, il n'est pas dans le temps. Dieu, lui, il n'a pas de pression. Il ne dit pas, oulala, va-t-il faire le bon choix ? Il connaît la fin de l'histoire. Toi, il y a du suspense dans ta vie. Mais pour Dieu, il n'y a pas de suspense. Il voit notre vie à tous en même temps et il connaît la fin. Donc quand Jésus vient dans ta vie, c'est pas un petit salut, c'est pas un petit amour, c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui a du poids. Le Saint-Esprit est venu et Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Le problème, c'est qu'on a un esprit d'orphelin. On croit toujours que Dieu est sur le point de nous mettre à la porte. J'ai vu un reportage il y a quelques mois de ça aux États-Unis. Tu peux adopter un enfant, mais s'il ne te convient pas dans les 5 ans, tu peux le rendre. C'est vrai, hein, c'est véridique. Mais Dieu n'est pas un Américain. Vous êtes là ? Dieu n'est pas en train de dire « je l'ai adopté, bon ça ne me convient pas, je rends. Je rends à Satan. » Merci Seigneur. Quand tu as adopté pour de vrai. Tu es sur le livret de famille, il a changé ton nom, tu lui appartiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ? Ça, c'est une vérité. Mais vous savez, c'est extrêmement important, Saint-Esprit, que tu me rappelles sans cesse cette vérité. Je ne veux pas que vous soyez orphelin, parce que si tu as un esprit d'orphelin, tu vas douter sans cesse de l'amour de Dieu. Si tu... Pardon, les restes de la pneumopathie, des fois. Si tu doutes de l'amour de Dieu, le problème que tu as, c'est que tu es toujours, ta vie est toujours fragile. Tu sais, tu n'es jamais sûr. Vous savez, quand tu es convaincu, frères et sœurs, on en parlait avec le pasteur Omaric, 80% de nos problèmes n'existent plus quand tu sais que Dieu t'aime. Je vais même te dire, 80% des prières que tu fais, tu ne les fais plus quand tu sais que Dieu t'aime. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous le recevrez. Vous l'avez lu ce verset ? Est-ce que vous recevez tout, vous ? Mais ce n'est pas compliqué. C'est que quand tu es dans l'amour de Dieu, tes prières ne sont pas des résidus d'angoisse, des résidus d'inquiétude, des résidus de « je ne suis pas sûr que Dieu connaît ma situation ». Tes prières sont simplement ciblées sur le fait qu'il est ton père et que tu es son fils. Et des fois, tu pries moins. Mais tu pries mieux. Seigneur, que l'esprit d'orphelin soit brisé. Et je vais même aller plus loin. Tout enseignement, et frères et sœurs, ouvrez les oreilles s'il vous plaît. Tout enseignement, parce que des enseignements, il y en a. On est dans une saison magnifique parce que tu peux avoir accès à tous les enseignements que tu veux. Moi, j'étais malade à la maison, je pouvais toutes les heures zapper un message. Tac, tac, te fais 18 messages dans la journée. Il y en a des enseignements partout. Et il y a plein de bonnes choses, mais je veux vous le dire. Tout enseignement qui vient affaiblir cette réalité que tu es accepté, que tu es sauvé, que ce n'est pas connecté à tes efforts, mais c'est connecté à sa grâce, tout enseignement qui affaiblit ça ne peut pas être divin. Parce que l'Ancien Testament, sans la grâce, des fois, est même moins dur que certains enseignements qu'on tire du Nouveau Testament. Ce n'est pas possible. Je veux dire une autre chose, l'élitisme chrétien, c'est insupportable. Je vais m'expliquer. Il n'y a pas les bons et les mauvais chrétiens. Amen. Dis à la personne à côté de toi, tu es aussi bon que moi. Il n'y a pas les bons et les mauvais chrétiens. Faut arrêter cette histoire. Le pasteur Omarik m'envoie un texto ce matin. Il me dit, ça va, t'es pas trop fatigué, tu prépares la célébration. Et je lui dis, écoute, je suis en train de méditer sur une pensée. Est-ce qu'il peut y avoir des bons et des mauvais fils dans la maison du Père? Si tu vas dans la parabole du fils prodigue, y a-t-il un bon fils et un mauvais fils? Tu en as un qui dilapide l'héritage en disant à son père, comme tu es vivant depuis trop longtemps, c'est dommage, tu meurs pas assez vite. J'aimerais récupérer l'argent pour aller faire la fiesta. Ça, c'est le premier fils. Et le deuxième, lui, par contre, il est là à toutes les réunions. Hein. Mais par contre, ça fait des années que je te sers durement et tu me donnes rien. Ingratitude dans son cœur. Dieu dit pas, toi, tu es bon ou mauvais. Les deux sont des bons fils de la maison du Père. C'est que des fois, nous, on s'enferme dans des raisonnements qui ne sont pas ce que Dieu veut pour nous. Frères et sœurs, que Dieu nous libère. Le diable est au chômage, je vous le dis. Il est au chômage à cause de nos pensées qui sont erronées. Déjà, quand tu n'es pas sûr que Dieu t'aime, il n'a même pas besoin de t'attaquer parce que déjà, tu t'attaques tout seul. Je vous le dis. Jésus a été renié 3 fois par Pierre. Il retourne à son ancienne vie de pécheur et Jésus va le chercher. Et vous allez voir, hein, vous allez voir, Jésus allait faire une seule chose sur cette plage ce jour-là. Il est allé lui rappeler la promesse. Il lui a rappelé différemment, mais il est allé lui rappeler la promesse. Quelle était cette promesse? Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort n'auront point de force contre elle. Tu es Pierre. Ça, c'est comme ça que Jésus le voyait. Sachant qu'il allait le renier. Cet amour. Tu es scellé par l'esprit, je le répète, ce n'est pas fragile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire tout haut, mon salut n'est pas fragile?
Mon salut n'est pas fragile.
Ah là là. Prenez le casque du salut, mais si tu as une casquette, tu vas faire quoi sur le champ de bataille? Il y en a qui vont avec la casquette. Moi déjà, si j'ai pas le couvre-chef et qu'il pleut, je suis en galère. La Bible dit 2 versets pour vous que le Seigneur les imprime dans nos cœurs. Un dans l'ancien, un dans le nouveau. Parce que j'aime bien qu'on voit si Dieu n'a pas changé d'avis en route, quoi. On ne sait jamais. Dans l'ancien, Ésaïe 49, 16. Voici, je t'ai gravé dans mes mains. Il n'y a pas écrit, je t'ai envoyé un courrier. Il n'y a pas écrit, j'ai pensé à toi. Je t'ai gravé dans mes mains. Vous êtes là? Nouveau Testament. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a marqué d'un sceau. Il nous a marqué d'un sceau. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a pris la cire, il a fait couler sur toi la cire spirituelle et de son sceau divin, il t'a scellé, il t'a marqué. Tu as une marque sur toi. Elle est spirituelle. Tu as été marqué. Et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Moi, j'aime la Bible parce que quand Dieu marque quelqu'un, c'est irréversible. La Bible nous parle du premier homme qui a été marqué, c'est Caïn. Caïn, il a tué son frère. Caïn, il était plein d'envie et de rébellion. Caïn, c'était un mauvais gars. Et pourtant, quand il va dire, mais si je suis chassé loin de ta présence, quiconque me trouvera me tuera. Et Dieu dit, je mets une marque sur toi, on ne pourra pas te tuer. Alors je veux te le dire à toi, si Dieu a été capable de protéger un meurtrier qui a tué son frère, Dieu est capable de te protéger à toi. La marque est plus solide encore. Vous êtes là? La deuxième marque dans la parole de Dieu, c'est le linteau. Le sang sur les linteaux pour la Pâque. La Bible dit que l'ange exterminateur devait passer. Je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas un esprit qui passe là. L'ange exterminateur devait passer et à cause du sang sur les linteaux, les maisons des Juifs ont été épargnées. Question. Quel était ce peuple à cette époque? Est-ce que c'était un peuple qui adorait à fond Dieu, qui était en passion pour Jésus? Savez quoi ce peuple-là? À qui Dieu met une marque au point que l'ange exterminateur ne peut pas toucher, c'est un peuple qui doute. C'est un peuple qui ne prie plus Dieu. C'est un peuple, quand il pense à Dieu, c'est pour dire qu'il m'a oublié. Nous, on pense toujours que plus je suis en feu, plus les promesses sont actives. C'est du mensonge. Les promesses sont actives, point. Amen. La différence, c'est quand tu es en feu, tu le sais, toi, qu'elles sont actives. Amen. Tu es en feu, pas pour Dieu. Lui, il est là, il va bien. Hein. Mais regardez ça. Et l'ange exterminateur, celui qui a la puissance de la mort, ne pouvait pas rentrer. Je veux te dire que la marque sur les linteaux était plus faible que la marque que Christ a mise sur ta vie. Elle est plus faible. Ton salut n'est pas fragile. Oui, il y a des échecs. Oui, il y a des inconstances. Oui, il y a des reniements. Oui, il y a des moments où on tombe. Mais les promesses, elles demeurent. Ça, c'est la première chose que je veux partager avec vous. La deuxième chose, accepte que tu n'es pas au niveau. Tu es déçu quand tu crois que tu vas y arriver. Quand tu sais d'avance que tu n'y arriveras pas, tu n'es pas déçu. Si par exemple, vous m'inscrivez à un marathon. Bon, je sais que vous, ça ne se voit pas physiquement, mais... Bah, même avec Romaric, là, qui fait le malin sur sa chaise. Si vous nous inscrivez à un marathon tous les deux, on ne sera pas déçus de ne pas finir. Et tu as entendu? L'orgueil précède la chute. C'est écrit. Mais l'humilité... Tu n'es pas déçu quand tu sais que tu n'arriveras pas. Tu n'es pas déçu. Si tu nous fais courir un 100 mètres aux Jeux Olympiques, on sait qu'on arrivera dernier, on n'est pas déçu. Maintenant, si on se met à se croire, comme lui, il croit par exemple, qu'on va gagner, on est déçu. Accepte que ton amour n'est pas au niveau. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est ça que Jésus va dire à Pierre. Quand il y a cet échange avec Pierre sur cette plage, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et Pierre répond, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « M'aimes-tu » et Pierre répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Paie mes brebis. Et pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alors, je sais que ce n'est pas du tout évident en français. Je veux le rendre très simple. Ce n'est pas un cours de grec, rien. Mais en fait, dans la langue grecque, il y a vraiment des nuances très importantes qu'on ne voit pas du tout en français. Mais Jésus pose des questions qui sont simples. Jésus lui dit, je veux le rendre comme ça. En fait, il y a deux mots qui sont utilisés. Il y en a un, c'est agapé, l'autre, c'est philéo qui sont utilisés. Et donc Jésus, à chaque fois, les deux premières fois, il pose la question, il dit « Est-ce que tu m'aimes agapé ?» Et Pierre répond « Je t'aime philéo ». Alors ça veut dire quoi ces mots? Simplement, agapé, pour le rendre simple, c'est l'amour divin. C'est l'amour parfait, c'est l'amour qui est prêt à se donner jusqu'au sacrifice. C'est le plus haut niveau d'amour qui existe. C'est une des caractéristiques de Dieu. Et Jésus vient à Pierre et lui dit « Est-ce que tu m'aimes cet amour total, entier, qui va jusqu'au sacrifice, qui est parfait ?» Et Pierre dit, « Seigneur, moi je t'aime, mais c'est philéo. » Et philéo, ça veut dire quoi? C'est l'amour général, c'est l'amour amical, c'est l'amour passionnel. Vous savez, l'amour passionnel, ça fait des gros pics et ça fait des gros downs. T'es passionné. Ouh, là, les jeunes, ils sont là, tu croises une jolie fille ou un beau gars. Ouh là, c'est l'homme de ma vie. Ça dure 24 heures. C'est passionnel. Vous êtes là? Enfin, vous avez été jeune un jour, certains, hein? Il y en a qui me regardent, moi non, moi. L'amour, c'est un amour humain en fait. Et en fait, dans ce texte-là, Jésus dit à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes de cette manière parfaite, totale, sacrificielle, qui se donne en entier ?» Et Pierre répond, « Mais Seigneur, moi je t'aime, mais c'est humain, c'est passionnel, c'est inconstant. » Et on dirait que les deux ne se rejoignent pas. Et pourtant... La troisième fois que Jésus pose la question à Pierre, il lui dit plus agapé, il lui dit « Pierre, est-ce que tu m'aimes philéo, et cet amour inconstant ?» Et Pierre lui dit « Oui Seigneur, c'est ça, c'est cet amour-là moi que j'ai pour toi. » Et ce texte, moi, il me touche, parce que c'est pas Jésus qui va demander à Pierre d'augmenter son niveau d'amour, c'est Jésus qui va diminuer son niveau pour rejoindre Pierre. Vous êtes là? Nous, on croit toujours que Dieu est en haut, et que, vous savez, il y a... Dieu est content de vous. Nous, on croit qu'il n'est jamais content, que la note, elle n'est jamais assez bonne, que le bulletin, il n'est jamais assez bon, que la journée n'est pas assez ouverte, que le j'ai pas assez d'amour, j'ai pas assez... Mais Dieu est content de vous. Est-ce que vous pouvez le croire, ça? Que Dieu est content. Quand Dieu te regarde, il est content de toi. Des fois, oui, il y a mieux à faire. Mon fils a eu son bulletin, là. Tu me permets, on en parle. J'en parle une seconde, ça va te faire du bien. Je l'aime, mon fiston. Il a eu son bulletin et c'était pas GG. propre principal, il a dit, hop, 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 on va parler, monsieur Gatté. Mais une des choses que je lui ai dit, moi, après, il peut le dire, je lui ai dit, même si le bulletin, il est bon ou pas bon, je suis fier de toi. Maintenant, s'il peut être bon, c'est pas mal aussi, hein. Je lui ai dit quand même ça aussi, hein. Mais s'il fait ce qu'il peut et qu'il n'arrive pas. Et vous savez, moi, je ne crois pas que si tu es chrétien, tu te lèves le matin en disant « je veux faire ma pire journée ». Tu ne te dis pas ça, tu veux essayer. Et puis des fois, hop, un peu de caractère qui ressort. Ça, vous me regardez tous, il n'y a pas que moi, hein, les gars. Il y a vous aussi, hein. Un peu de caractère qui ressort. Des mauvais choix. On s'engage sans avoir prié. Et on en fait plein des bourdes comme ça. Mais Dieu, lui, il reste content de toi. Jésus était fier de Pierre, même quand il a renié qu'il était reparti sur son bateau et qu'il était en train de pêcher rien du tout. Ça, c'est l'amour de Dieu. Jésus n'a pas demandé à Pierre d'élever le niveau, c'est lui qui a baissé le niveau. C'est Jésus qui est venu vers lui. Alors, la déception, parfois, je le disais, elle provient du fait qu'on se croit au niveau. Pierre, lui, était plein de déclarations, il se croyait au niveau, puis il s'est rendu compte qu'il n'était pas au niveau. J'arrive à la fin. Le problème, c'est que tout ce qui s'enracine en toi-même est fragile. C'est-à-dire que si tu te confies dans tes forces, c'est fragile. Si tu te confies dans tes résolutions, c'est fragile. Si tu te confies, j'ai fait un vœu. Oh, alors ça, c'est la pire bêtise. Ça ne marchera pas. Fais un vœu. En fait, tout ce qui s'enracine dans mes... Je vais aller plus loin. J'ai envie de vous un peu secouer là. Même quand tu t'enracines dans ta propre spiritualité, quand tu te dis, oh là, oui, maintenant je prie tant, alors là je vais avoir accès à telle faveur, tel niveau. Les amis, voici le secret. Le royaume de Dieu ne ressemble pas à une salle de vente aux enchères. C'est pas plus tu mets de prix, plus tu as accès au gros lot. Eh oui. Des fois même, tu mets pas de prix et tu sais pas pourquoi Dieu t'utilise quand même. En fait, le problème, c'est pas pour Dieu qu'on fait les choses, c'est pour nous, c'est pour comprendre l'amour de Dieu, pour comprendre ce que Dieu nous a donné. Et tu ne dois pas t'enraciner en toi-même, tu dois t'enraciner en lui. Et c'est ça que Jésus essaie de faire à Pierre. Il veut lui apprendre qu'il ne doit pas être enraciné en lui-même, mais qu'il doit être enraciné en lui. Il est en train de lui expliquer que tu es philéo, tu es inconstant. Dis à personne à côté de toi, tu es inconstant. Tu es inconstant. Les amis, on se parle en français, on est dans une église. Qui a déjà pris une résolution au Nouvel An qu'il n'a pas tenue? Mais oui, on fait tout ça. Oh, là, ça sonne le sport. Mais des fois, les chrétiens, c'est spirituel. La prière, l'église, le service. Je m'inscris à l'école biblique pendant un mois. Et... c'est l'inconstance, c'est ça. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, l'inconstance, parce que Dieu, lui, est constant. Et si tu t'enracines en lui, ça va. Même si tu es inconstant, la bonne nouvelle, c'est pour ça qu'il est écrit, tu es infidèle, mais lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Ce n'est pas important, ton inconstance. Ce qui est important, c'est que lui, il est constant. Parce que si lui, il était inconstant, là, on serait dans la galère. Là, on serait dans la galère. Dieu est constant, Dieu est fidèle. Et si la barre est trop haute pour toi, elle n'est pas trop haute pour Jésus. Et en fait, je vais même aller plus loin, c'est parce que la barre est trop haute que tu as besoin de Jésus. En fait, ce n'est pas une mauvaise nouvelle l'inconstance, ce n'est pas une mauvaise nouvelle de ne pas avoir la capacité, parce que c'est justement là où tu as besoin de Jésus. Pasteur Romaric disait tout à l'heure, c'est la dépendance, c'est essentiel. J'ai besoin de Jésus parce que je ne suis pas à la hauteur. Sinon, tu n'as pas besoin de Jésus. Quand je regarde ma vie, entre ce que je suis et là où j'aimerais être, entre les réussites et les échecs, soit tu regardes tout ça et tu te dis, ouais, c'est pas possible, j'arriverai pas. Ou alors tu te dis, Seigneur, quelle aventure que celle d'être un être humain sur la terre, et quelle patience et quelle bonté un Dieu qui ne change pas et qui m'aime malgré tout. C'est ça l'histoire. Je termine par ça. Dernièrement, compte sur son amour. Jésus répond à chaque fois qu'il pose cette question à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes ?» Pierre dit « Oui, je t'aime de cet amour imparfait. » Et Jésus lui dit « Paie mes agneaux. » la première fois. Ensuite, il lui dit « paie mes brebis », et ensuite il lui dit « paie mes brebis » à nouveau. Et là, encore une fois, on dirait qu'il dit quasiment la même chose. On dirait que c'est trois phrases, trois fois les mêmes, tout le monde se dit la même chose pendant trois phrases. Alors qu'il y a plein de variantes qui sont incroyables. Et c'est très important de comprendre tout ce que je dis d'un bloc. Jésus est là et il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes cet amour parfait? Et Pierre dit, Seigneur, moi, je n'ai, en stock, j'ai que l'amour imparfait. J'ai que l'amour inconstant. Voici la réponse de Jésus. Premièrement, il lui dit, donne de la nourriture au nouveau-né. Ok. Pierre confesse une faiblesse et Jésus, lui, confesse une capacité qu'il a d'accomplir une portion de la promesse qu'il lui a donnée. Ok. Est-ce que tu m'aimes, Pierre, vraiment de cet amour parfait? Non, Seigneur. Moi, je suis capable de t'aimer que de manière limitée, deuxième fois. Et Jésus répond, paie mes brebis, littéralement, il lui dit, guide, dirige, emmène dans les pâturages les brebis matures. Enfin, les amis, moi, j'ai quelqu'un qui n'arrête pas de me dire qu'il est incapable. Je cherche une babysitter. Elle me dit, je ne sais pas donner le biberon, je ne sais pas mettre des couches, je suis un peu pas tranquille, je ne lui confie pas mes enfants, non? Oui, il y en a un qui dit amen, j'espère que vous êtes comme ça. J'espère, mais tout le monde me regarde, non, nous, on a la foi, on le fait. Là, attention. Mais là, ce qui est fou, c'est que Pierre dit, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Et Jésus dit, non, ok, t'es pas à la hauteur, mais tu vas t'occuper des nouveau-nés. T'es pas à la hauteur et tu vas guider, diriger vers les pâturages, les brebis matures. La troisième fois, il va lui dire, tu vas être capable de donner cette nourriture aux brebis matures. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? À chaque fois que Pierre est en train de confesser, à chaque fois qu'il confesse une imperfection, Jésus est en train de lui dire, non seulement ça n'annulera pas la promesse, mais en plus de ça, ne compte pas sur tes limites à toi, mais compte sur ma force à moi pour voir devenir réalité la promesse dans ta vie. Arrête de regarder à toi-même. Frères et sœurs, la réalité, c'est que quand on reçoit une promesse de Dieu, la première des choses qu'on se dit, c'est on se dit comment? Non? Comment? Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde capacité, compte en banque, connexion. Les 3 C, Romaric, t'as vu? Je suis.
Hey. Tu mentes.
presque au niveau. Je vais le noter, je vais me réécouter pour. Je me rappelle déjà plus. Capacité, compte en banque et connexion. Et la réalité, on dit, mais je pourrais pas, parce que je suis pas capable, comme Moïse. Je pourrais pas parce que j'ai pas les moyens financiers. Je pourrais pas parce que je connais pas les bonnes personnes. Et on passe toujours le filtre de la promesse au niveau de notre capacité à nous. Mais la réalité, c'est que Jésus est en train de dire, même si tu es limité, il y a une provision qui a déjà été donnée pour ton appel. Il y a déjà une provision qui a été donnée pour ta promesse. Je vous rappelle une chose, le jour où Dieu te donne une promesse, c'est le jour où toi tu l'entends, mais c'est pas le jour où Dieu parle. Est-ce que vous êtes là? Le jour où Dieu te donne une promesse, c'est le jour où toi tu l'entends, ce n'est pas le jour où Dieu parle, parce que Dieu parle dans l'éternité. Mais nous, des fois, on n'entend pas. D'un coup, on attrape la promesse, on se dit « Ouh, j'ai une révélation !» Vous savez ce que ça veut dire le mot « révélation » dans la Bible? La révélation, c'est un objet qui est caché sous un tapis, qui a toujours été là, mais un jour, toi, tu le découvres. Et toi, tu crois que « Ouh, tu vas voir le pasteur, j'ai une révélation, un nouveau message !» Et l'Ecclésiaste te répond « Vanité des vanités, tout est vanité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Dieu a déjà tout déclaré. C'est juste à toi de l'attraper. De le comprendre, de le saisir. Et là, comme Pierre a renié Jésus, son antenne est baissée, il ne capte plus rien. Et Jésus va sur cette plage, et il va sur cette plage exclusivement pour Pierre. Et moi, j'aime Jésus qui vient exclusivement pour moi. Je suis désolé, même pas pour vous, que pour moi. Mais tu peux le dire pour toi aussi. C'est ça la spécificité, c'est que Dieu ne se partage pas. Dieu est entier pour chacun de nous. C'est de l'engagement qui est total. Et ça sécurise. Les amis, quand je vous dis que plus tu comprends l'amour de Dieu, moins tu as de sujets de prière et plus ta vie va bien, c'est pas parce qu'elle va bien ta vie, mais parce que tu te sens en sécurité. Et là, Jésus revient et il dit à Pierre, rappelez-vous la promesse de Pierre, qu'est-ce que c'était? Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Mais quand tu te retrouves avec une promesse si glorieuse et que tu es dans ta barque après avoir renié Jésus, tu te dis, ben... Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est fini, c'est trop tard. Et Jésus vient et il lui fait un feu sur la plage et il commence à lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes de cette manière parfaite? Non Seigneur, j'arrive pas. Je suis inconstant. Paie mes brebis, tu vas être rendu capable. Tu vas être rendu capable. Est-ce que tu m'aimes? Non Seigneur, j'arrive pas à t'aimer comme tu aimerais que je t'aime. C'est pas grave, je vais te rendre capable de donner la nourriture même au nouveau-né. Seigneur, Pierre, est-ce que tu m'aimes de manière imparfaite? Oui Seigneur, je t'aime de manière imparfaite. T'inquiète pas. Tu vas être capable de donner la bonne nourriture. Jésus, en fait, et j'ai paraphrasé pour vous, et j'aime bien paraphraser, moi, la Bible en reprenant les mots, parce que des fois, ça parle comme ça. En gros, Jésus est en train de dire à Pierre, tu ne seras pas juste un peu utilisé, tu ne seras pas juste restauré. Vous savez, nous, des fois, on pense que Dieu nous restaure. Donc, en gros, on retrouve le salut, mais surtout pas plus. Combien de gens m'ont dit, j'ai trop péché? Alors ça, c'est trop fort, ça. J'ai trop péché. Est-ce que tu crois que le jour où Dieu t'a sauvé, il ne savait pas que tu allais trop pécher? Suspense. Mais il le savait, il t'a sauvé quand même. Et ça, c'est l'amour de Dieu inconditionnel, incroyable, incommensurable. Ça s'appelle la grâce. Je ne peux pas comprendre la grâce. Un jour, on sera au ciel. Il nous faudra une éternité pour comprendre la grâce de Dieu. Tu ne seras pas juste un peu utilisé, mais tu vas être capable de donner aux nouveau-nés. Tu vas être capable de donner aux matures. Tu vas être là pour les guider. Tu sauras comment les guider avec sagesse et efficacité. Ça, c'est la promesse que Jésus rappelle à un homme qui vient de le rejeter. Je ne sais pas si on imagine. Ce n'est pas la promesse qu'il donne à quelqu'un qui sort de 40 jours de jeûne et prière. Gloire à Dieu qu'il ne faille pas toujours jeûner 40 jours pour entendre sa voix. Mais oui, ça c'est Dieu. La force provient du fait que c'est son amour qui fait la différence. Vous savez, et je termine par là vraiment pour de vrai. Jésus a dit une chose, je vais m'en aller, le Consolateur va venir et il vous conduira dans toute la vérité. Et il va faire une chose très particulière, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Vous savez ce que le Saint-Esprit fait de très concret dans ta vie? Je vais l'illustrer comme ça. Le Saint-Esprit, il est toujours à côté de toi et il te répète toujours une seule chose. Il te répète toujours une seule chose. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous, on est là, on traverse les saisons de nos vies. Des fois, on y croit, mais des fois, on n'y croit plus. Des fois, on a été au top. Des fois, on est dans la loose totale. Et le Saint-Esprit vient et il te rappelle qui tu es. Il te rappelle qui tu es. Et Jésus, sur cette plage-là, il n'est pas venu re-sauver Pierre. Il n'est pas venu le re-sauver une deuxième fois. Il est juste venu lui rappeler qui il était. Vous êtes là? Ce que nous oublions souvent, ce n'est pas le salut, c'est qui on est en Jésus. On oublie son amour, on oublie les promesses. Alors je crois qu'il est bon pour nous cet après-midi, déjà premièrement, de laisser cette vérité imprégner mon cœur. La vérité est celle-ci, Dieu m'aime. Mon salut n'est pas fragile. Tu n'es pas un peu sauvé, tu n'es pas en train d'être sauvé, tu n'es pas en train de... Je suis à 80%, un jour je serai à 90%, un jour je serai à 100%. Mensonge. Le jour où tu es sauvé, ça va. Détends-toi. C'est comme si tu étais né, la Bible dit, tu es né de nouveau. Amen. Voici, j'ai eu deux enfants. Quand ils sont nés, ils ne savaient pas parler, ils ne savaient pas marcher, ils ne faisaient pas la cuisine, ni le ménage, ni vider le lave-vaisselle. Bon, ils ne font toujours pas ça, mais... Non, ce n'est pas vrai, il le fait. Non, il le fait, ce n'est pas vrai. Le jour où tu es né de nouveau, voici ce que dit l'apôtre Paul. Tu es né comme un enfant. Tu avais besoin du lait spirituel, tu es un nouveau-né. Et la progression, c'est que tu grandis, tu deviens un homme mature. Mais c'est un processus. Moi, j'étais petit, je me rappelle, j'avais 5 ans, je me disais, je veux être grand. La bonne nouvelle ou la mauvaise, j'en sais rien, c'est que je n'ai pas grandi en une nuit. Moi, je disais l'inverse à mon fils, je dis, tu peux rester petit. Et quand il était petit, il me disait, oui, je resterai petit, papa. Puis un jour, il m'a dit, papa, j'arrive pas. Parce que c'est un processus, la croissance, et que Dieu veut nous faire grandir. Et donc, il n'y a pas de souci. Quand je sais que je suis aimé, que je suis dans un environnement sécurisé, que son amour est là, des fois, je fais des exploits, des fois, je n'en fais pas, mais Dieu m'aime et ce salut, il est solide. Et la deuxième chose, qu'importe ta saison, et je veux m'adresser à chacun de vous, Qu'importe vos saisons, ne croyez jamais qu'une saison vous définit. Ne croyez jamais ça. C'est pas parce qu'un jour tu es prêt à vendre ta maison et tes biens pour partir en mission et que la semaine d'après tu n'arrives même plus à prier que Dieu dit j'en étais sûr. C'est un loser, c'est mort. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. La chose la plus incroyable, c'est que même Jésus a dit « Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas et quand tu seras revenu, tu vas être capable d'affermir tes frères. » C'est-à-dire que même dans la noirceur la plus totale, même dans le temps le plus sombre de la vie de Pierre, Christ était en train de travailler dans sa vie pour le rendre capable de devenir une réponse à la promesse qui avait été annoncée. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît? Et je veux prier maintenant pour qu'on puisse simplement comprendre et recevoir cet amour qui est parfait.